Bienvenue au Polysécur épisode technique. Je suis accompagné de Nicolas, mon anonyme.
Salut Nicolas, comment ça va?
Très bien, toi?
Ah ouais, ça va, je suis content de te revoir.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré. Qu'on s'est longtemps. Vu peut-être pas si tant que ça, mais qu'on a enregistré, ça fait un bout de temps.
On était dû.
On était franchement très dû. Aujourd'hui, on va parler de CloudIDS, qui est un produit dans lequel tu es franchement très impliqué. Fait que je vais te laisser amorcer avec ça. Puis, ben, comme d'habitude, je vais poser des questions. Puis, peut-être rire au passage.
Yes, absolument. Fait que je sais pas si tu t'en rappelles que la première fois que je t'ai parlé de CloudIDS, pour moi, c'est un petit projet que j'ai vraiment à cœur. C'est un projet qu'il m'a permis chez Google d'apprendre un peu comment évoluer dans Google comme pour ma carrière, puis pour naviguer dans cette grande entreprise-là. Puis, pas juste me limiter à mon rôle de Customer Engineer. Fait, parce que IDS, j'ai été impliqué dès les débuts, au moment, à plusieurs mois avant le lancement. Puis en gros, ce que ça fait IDS, c'est... En fait, je vais te poser une question. T'as-tu déjà essayé de déployer des pare-feux dans le cloud avec peu importe le vendor? Enfin, t'as-tu déjà essayé ça?
Ben, oui. Parce que je ne suis pas très favorable à déployer des firewalls en nuage parce que c'est des outils de sur-site qui s'adaptent très mal à cette réalité-là, puis ça fait mal d'essayer de faire quelque chose avec ça. C'est juste souffrant, là, essentiellement. Là.
Tu as raison que ça s'adapte mal, puis il y a une grosse raison. La principale raison pourquoi ça s'adapte mal, c'est que le cloud, dans sa structure fondamentale, n'a pas été conçu pour rajouter un workload en avant d'un workload. Fondamentalement, c'est ça que c'est. Quand tu rajoutes un firewall en avant de ton workload, c'est un workload en avant d'un workload. C'est une machine virtuelle de peu importe le vendor. Que ce soit Palo Alto, Fortinet, Checkpoint, Cisco, n'importe lequel vendor, c'est essentiellement une VM que tu allumes. Puis là, tu fais toute la plomberie autour pour permettre d'inspecter et d'intercepter le trafic pour pouvoir bénéficier de tout ce que cette technologie-là est super bonne à faire. Puis le problème fondamental, puis la raison pour laquelle c'est un casse-tête à exécuter, c'est que pour que ça fonctionne, tu dois rajouter des load balancers en avant puis en arrière, parce que ultimement, ce que tu veux pas avoir un single point of failure, right?
Absolument pas.
Bon, c'est ça. Fait que ce que tu veux, c'est être capable d'être élastique, de dire si j'ai pas beaucoup de charge, je mets une VM de firewall. Si j'en ai beaucoup, j'en rajoute. Pour que ça marche dans le cloud, peu importe le cloud provider, tu as besoin des load balancers. Et ça complexifie la patente. La raison pourquoi ça complexifie la patente, c'est parce que généralement, moi, ce que j'ai observé chez mes clients, c'est que les équipes de sécurité et les équipes de cloud ne se parlent pas de temps.
J'ai eu le même genre d'observation. Je confirme.
Oui, ils ne se parlent pas de temps. Puis ce que ça fait, c'est que les équipes de cloud, généralement, font leurs petites affaires. Ils prennent les best practices du cloud provider. Ils font l'architecture recommandée, peu importe le cloud vendor. Puis par la suite, tu as l'équipe sécurité qui dit « Hey, là, on a des requis de conformité, on a des requis d'architecture. » On doit avoir une certaine observabilité. Ben, vous allez mettre cette technologie-là. C'est ça qu'on a en prémisse. Et là, le clash arrive. Puis le clash arrive parce que là, ça force les équipes de cloud à tout refaire leur architecture cloud pour pouvoir insérer un workload en avant d'un workload.
Ah ben, au-delà du workload, c'est d'insérer une machine virtuelle devant souvent des workloads qui ne sont pas nécessairement des machines virtuelles en c'est plus. Ça.
Exact. Souvent, c'est des appliances. Puis des fonctions, puis des services par API que les cloud vendors offrent. Fait que là, ça complexifie l'affaire un peu. Bon, on va revenir à IDS. Pourquoi c'est un produit chez Google qui est un game changer? Faut, première primeur, Cloud IDS, c'est le premier d'une série de plusieurs produits de sécurité réseau que Google est en train sur lesquels Google est en train de travailler en ce moment. Mais là, j'élaborerai pas plus là-dessus. Il y a des annonces qui vont venir dans les prochains mois. Mais c'est un produit qu'on a développé en partenariat avec Palo Alto Networks. Fait en gros, ceux qui me connaissent, ceux qui écoutent le podcast, qui connaissent mon historique, je travaillais avant d'être chez Google pour un intégrateur Palo Alto pendant des années. Fait que c'est une technologie que je connais pas mal bien. Lorsqu'ils ont annoncé à l'interne qu'on lançait Cloud IDS, Powered by Palo Alto. Là, ça m'a intéressé, puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'impliquer dans cette équipe-là. Quand on dit que c'est un produit qu'on a lancé conjointement avec eux, c'est en gros ce que Cloud IDS fait, c'est qu'on utilise la technologie de Palo Alto Networks, donc toute leur Threat Intelligence Database qu'ils ont bâti depuis plus de 10 ans. On réutilise ça, puis ce qu'on vient, c'est qu'on vient l'insérer. On vient copier le trafic à destination d'un workload vers des versions gérées de Palo Alto, en fait. Fait que c'est un service complètement géré où est-ce que Google va s'occuper de prendre la technologie, de capturer le trafic, d'envoyer une copie de ce trafic-là vers des machines virtuelles gérées par Google. Donc, c'est un vraiment fully managed. Donc, Google s'occupe de gérer l'élastique de la chose, c'est-à-dire avoir assez d'instances de Palo, de VM Palo en arrière pour que ça fonctionne, s'assurer que la configuration qui est utilisée là-dessus fonctionne, s'assurer que tout le scripting, l'infrastructure as code qui en découle est toute conforme aux best practices du vendor. Puis par la suite, on interface ça dans la console de Google Cloud. Quand on l'interface, on appelle ça un endpoint. Fait que dans le fond, c'est on met un endpoint IDS par VPC chez Google. Puis on vient capturer le trafic pour l'envoyer sur ce endpoint-là. Par la suite, les paquets sont analysés, sont traités avec tout le stack que Palo Alto est reconnu dans le marché pour avoir. Ce qu'on fait par la suite, c'est qu'on prend les logs de ça, on les retourne dans Cloud Login, qui est l'engine de login de Google Cloud.
Ouais, ben c'est ça que tu te retrouves avec une façon qui était historiquement sur site. Dans le fond, on avait une machine, une affaire comme ça, où dans le fond, Google vient tout enlever la complexité et offre au client à ce moment-ci d'avoir un vrai service cloud qui est dans lequel le client ne consomme que le service et ne consomme pas une VM. Puis d'aller beaucoup plus loin avec ce moteur-là et donc de l'intégrer dans l'ensemble de son infrastructure et avec toutes les facilités des tableaux de bord et ensuite qui sont disponibles.
Pour les tableaux de bord, on va y revenir, mais assurément qu'au niveau de l'intégration, c'est très facile. Ce que ça permet, en gros, il faut regarder le cycle de vente typique pour nous quand on arrive en avant d'un client puis qu'on se dit « Hey, on veut régler tes problèmes. Pourquoi qu'est-ce qui te manque en termes de visibilité? » Mais nos clients, ce qu'ils nous disent, c'est « Ah, ben on veut remettre la même chose qu'on avait on-prem. » Parfait. C'est quoi qui te bloque en ce moment? Ben, tu sais, ce que je t'ai dit tantôt, c'est « Ah, ben là, c'est parce que là, c'est compliqué. Il faut réussir à faire des preuves de concept pour réussir à faire... » Le cycle de vente, il est très long. C'est-à-dire, le cycle d'implantation, il est très long. Versus Cloud IDS, c'est out of the box. Fait que nous, moi, ce que ça me permet de faire, c'est au lieu de prendre plusieurs mois, où est-ce qu'on va dire « Parfait. » Qu'est-ce que ça te prend comme structure de VPC? Qu'est-ce que ça te prend comme structure de load balancer? Comment est-ce qu'on va intercepter les flux de trafic? C'est quoi les flux de trafic? C'est quoi les VM que tu as besoin? Comment est-ce qu'on automatise ça? Ça, généralement, quand j'aide mes clients à faire ça, ça prend des semaines puis des mois. Avec Cloud IDS, c'est out of the box. On s'en va dans la console, on allume ça, on sélectionne les workloads sur lesquels on veut capturer. Voilà, that's it, c'est fait.
Oui, mais c'est la beauté du cloud, justement, où on soumet à l'opérateur toute la complexité. C'est ça qu'on va chercher. C'est ça qu'on va chercher comme Google Workspace. C'est qu'on ne veut pas gérer l'infrastructure qui est sous-jacente à tous ces éléments-là. On veut juste vraiment consommer le service. Donc, on s'arrive dans un état de consommation de service sans la complexité inhérente à l'installation et à l'entretien aussi. Là.
Puis, pour ceux qui m'écoutent, souvent, un des défis qu'on a en sécurité, lorsqu'on fait affaire à un environnement cloud, c'est comment est-ce que je suis capable de reproduire la visibilité que j'avais avant dans l'environnement cloud? Comment je fais ça? On veut vraiment juste reproduire. Je l'avais avant en prem, je le veux maintenant dans le cloud. Ça, c'est un méchant défi. Puis bien souvent, les outils sont disponibles dans le cloud. Ça coûte de l'argent, puis il faut aller chercher des budgets. Il faut démontrer qu'on en a besoin à notre management. Cloud IDS va permettre ça parce que c'est tellement rapide. Il n'y a tellement aucun impact à faire ça sur ton workload parce que tu ne changes pas l'architecture. Tu fais juste capturer les données. Ben ça, c'est un bon outil pour permettre à toutes les équipes sécurité de démontrer que, hey, on a besoin d'implanter les autres outils de sécurité, de compliance au niveau de la gestion des rôles, la gestion des policies, la gestion IAM, la visibilité sur les vulnérabilités. Ben c'est facile parce qu'une fois qu'on a utilisé IDS pour le montrer, ben ça va nous aider à aller chercher des budgets.
Oui, ben d'autant plus que tu as une facilité de déploiement. Là, en ce fond, tu payes ensuite juste à l'utilisation, contrairement à une VM que tu dois monter, que tu dois payer la VM de façon probablement beaucoup plus dispendieuse parce que tu payes tout le OS que tu mets dessus, tu mets tout ce que tu as là. Dans ce cas-ci, tu fais juste payer ton service qui est mutualisé là, par toute la force que Google peut avoir en arrière de ça, justement, de donner la capacité sans le cassage de tête qui va avec. Puis justement, tu es à l'autre bord, puis là, tu voulais en revenir, puis justement, tu en mentionnes. C'est sûrement ça aussi, l'intégration de l'information dans un seul pan of glass. Ça, c'est le seul point de ne pas se multiplier ou pas se perdre dans les tableaux de bord de multiples technologies qu'on s'amuse à déployer en fou. Là.
Je t'avais dit que je te parlerais de tableau de bord. Il y a un tableau de bord qui vient avec Cloud IDS. Je dois te dire qu'il est très de base. Puis une des raisons pour laquelle Google est reconnu dans le marché, c'est sa capacité à gérer des données. Je pense que je t'en avais déjà parlé dans les autres podcasts. Google, c'est une compagnie de données. On a toute une offre de produits pour gérer de la donnée. Donc, chez Google, un des produits forts de la plateforme Google Cloud, ça s'appelle BigQuery. C'est un outil de collecte des données. Fait que là, qu'est-ce que tu penses que je vais te dire?
Ben, les informations ont l'air de se diriger dans cette zone-là.
C'est ça. Cloud IDS, essentiellement, lorsqu'on retourne les logs de Cloud IDS, c'est un log de Palo Alto. C'est exactement le même log en JSON que ce que tu aurais avec des firewalls Palo Alto. Mais ces logs-là, il va se faire enregistrer dans Cloud Login, qui est la console. Maintenant, si tu veux prendre ce log-là puis l'utiliser ailleurs, comment tu fais? Mais il y a une façon très simple de prendre ce log-là qui est dans Cloud Login puis de l'exporter. Typiquement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'exporter dans ton SIM, right? On va créer un Cloud Login, un Cloud Router Sync qui va dire tous les logs d'IDS, transfère ça à mon Splunk, par exemple. C'est out of the box. Tu t'en vas littéralement dans la console, tu dis fais-moi une règle, tout ce qui sort d'IDS, envoie ça dans Splunk. Tu peux l'envoyer dans une autre fonction qui s'appelle PubSub aussi, qui là te permet de l'interfacer avec littéralement n'importe quel autre outil. Donc, si vous avez un SOAR, par exemple, que vous voulez générer selon certains paramètres des actions dans votre SOAR, ben on peut les déclencher à partir de là aussi. La dernière chose qu'on est capable de faire, ben, c'est de l'envoyer dans BigQuery, qui est l'outil d'analytique, de data analytique de Google. Donc, je pense qu'on en avait déjà parlé.
Oui, ça, on a déjà parlé de BigQuery, qui était un outil, peut-être pas l'idéal, mais qui quand même qui est un bon point de démarrage pour le management des logs pour les gens qui ne veulent pas encore aller avec le full-fledged SIM, par exemple.
Ben, dans les faits, c'est que ça, une donnée de sécurité n'est pas très différente d'une donnée de marketing, d'une donnée de ressources humaines, d'une donnée financière. Une donnée, c'est une donnée. La donnée qu'on prend de Cloud IDS, qui est essentiellement un log en format JSON de Palo Alto, qui dit voici ton adresse IP source, ton adresse IP destination, voici le CV, voici le niveau de criticalité, ou le App ID, le numéro d'App ID. Tout ça, on est capable de le transférer dans ton data lake d'entreprise. Puis une fois qu'il est dans ton data lake d'entreprise, on peut mettre des tableaux de bord. On peut construire nos propres tableaux de bord. Fait qu'essentiellement, la plateforme de Google Cloud, si tu voulais, tu pourrais te bâtir ton propre SIM à toi. Tu pourrais bâtir le SIM Nicolas.
Ça pourrait être ouais, parfait, on veut pas ça, par
non,
exemple.
Ça tente pas? Non?
Non, moi, reconstruire ce qui existe déjà n'est pas dans ma philosophie, disons.
C'est bon, ça. C'est bon. Mais tu as la possibilité de le faire. Ce qui est bien, c'est qu'on a lancé l'année passée, en fait, c'est un de mes collègues, Yann et moi, l'année dernière, on a monté ce qui s'appelle un Looker Block. C'est pour Cloud IDS. Donc, c'est-à-dire, si tu s'en vas dans le marketplace de Looker, puis tu fais une recherche sur Cloud Intrusion Detection System ou CloudArmor, on l'a fait CloudArmor aussi. On a publié des blocs, c'est-à-dire des tableaux de bord prémontés out of the box, où est-ce qu'avec un clic, on déploie le tableau de bord. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de le connecter sur BigQuery. Si tu as envoyé tes logs de Cloud IDS dans BigQuery, voilà, tu viens de te ramasser avec un full-fledged visualization engine que tu es capable de détecter, OK, c'est quoi mes top CV, c'est quoi mes top attaques, c'est quoi mes top talkers, top source, top destination. Tu es capable de créer plein de tableaux de bord sur mesure puis creuser. Tu peux même envoyer des alarmes à ton système d'étiquette. Bref, je n'embarquerai pas dans Looker, les capacités de Looker en sécurité, mais clairement que Cloud IDS a une intégration très simple à faire dans ce sens-là.
Oui, c'est d'autant plus intéressant d'avoir ce genre de tableau de bord là que j'ai prémonté où c'est déjà des choses prémâchées qui aident les gens à se propulser plus loin puis qui ajoutent la valeur à l'outil puis que justement qui sont typiquement bien orientés pour l'environnement dans lequel ils sont déployés aussi. Fait que c'est d'autant plus un accélérateur d'adoption de ce genre de technologie-là. Et ensuite, bon, là, c'est sûr que les gens doivent aller plus loin puis on les amène toujours plus loin, mais au moins de démarrer avec une base qui est très robuste puis qui a été testé largement, là, de ce que j'en ai compris aussi. Là.
C'est clairement ça. L'avantage qu'on a avec IDS, c'est vraiment les clients qui le déploient, c'est tout le temps pour les mêmes raisons. C'est une question de vitesse en premier. Parce que changer l'architecture, c'est trop compliqué, ça lui prendrait des semaines à faire. Puis, bien souvent, le deuxième prérequis en arrière de ça, c'est des compliance. Là. On doit être certifié PCI. Le requirement, je pense, c'est 11.2, si je ne me trompe pas, ou 11.3 de PCI, du PCI DSS. Qui te demande d'avoir un système de détection d'attaque? Qui doit être géré? Parce que là, il y a tous les prérequis de PCI par rapport au IDS. C'est pas juste d'en avoir un. Il faut en avoir un qui soit maintenu, qui soit à jour, qui fonctionne. Ben ça, c'est tous des attributs d'un service géré. Là, c'est Google qui s'occupe de ça. Fait que Google s'occupe de les maintenir disponibles, les maintenir à jour, puis que ça fonctionne. Puis toi, tout ce que tu as besoin de t'assurer, c'est c'est quoi le trafic que je veux capturer pour mon scope PCI, par exemple? On l'envoie là-dedans, on retourne les logs, puis là, tu fais les logs, ben ça suit ta politique d'entreprise.
Oui, c'est toute la beauté des services gérés comme ceux-là, parce que justement, on se sauve tellement de problèmes. Mais encore, puis moi, je suis encore fasciné parce que je vois tellement de gens qui se donnent du trouble. Et justement, comme tu mentionnais plus au début, les équipes de sécurité arrivent, on va mettre un IDS dans la patente. Mais là, ça brise toute la beauté de l'architecture cloud dans laquelle, justement, ce genre de composant-là a plus de difficultés à s'intégrer quand on le réfléchit de l'ancienne façon versus une façon comme celle-là, et plus les tableaux de bord, plus intégration, plus tout ce que ça peut, les bénéfices sont énormes. Là.
C'est clair. Puis, évidemment, avoir un IDS comme ça, ça ne règle pas tout. Ben là, il faut être certain qu'on le cible sur les bons workloads. Puis ça, c'est un des, je dirais pas piège, mais c'est un des éléments que j'aimerais soulever à l'attention des auditeurs. J'encourage tout le monde qui utilise Google Cloud à essayer IDS. Par contre, soyez certains de ne pas aveuglément l'allumer à on. OK? Ça, je vous en conjure. Ne faites pas ça. Réfléchissez un petit peu à pourquoi vous le faites, sur quoi vous le faites. Est-ce que vous êtes vraiment obligé de... Est-ce que vous avez vraiment un prérequis de capturer l'ensemble des données d'un VPC?
Ouais, ben on se retrouve généralement à... Souvent dans cette situation-là où on ouvre toutes les lumières, puis ensuite on va gérer après. Et quand on ouvre toutes les lumières, ben sinon on ne voit plus rien parce qu'on est aveuglé par la quantité de choses qui nous arrivent. C'est-à-dire qu'on n'est pas plus avancé que si on n'avait rien du tout. Là.
Voilà, mon ami, je te garantis que IDS va te montrer des choses que tu ne voulais pas savoir. Puis une des raisons pour laquelle il va le faire ainsi, c'est que non seulement tu es capable d'avoir de la visibilité in et out d'une carte réseau sur une VM, mais IDS, tiens-toi, il est capable de capturer les données à l'intérieur d'un cluster Kubernetes Engine, c'est-à-dire la communication inter-node sur un pod. Donc, ce qui ne sortirait pas normalement d'une VM, là, on est capable d'avoir de la visibilité dessus. Ça, c'est intéressant parce que c'est une fonctionnalité de GKE. On s'en va dans GKE, on active la visibilité interne du cluster. Puis là, on est capable de voir deux microservices communiquer entre eux, ce que tu aurais aucune façon de faire normalement parce qu'il faudrait que tu sortes le trafic pour pouvoir le rentrer.
Oui, c'est ça. J'arrête de visualiser comment les classeurs vont fonctionner. Effectivement, on va devoir créer une espèce de nœud ou de point qui va rentrer. Ça n'a aucun sens de faire ça. Ah. Ou en rajouter un pod qui, ou pas un pod, mais un workload qui va faire que ça dans un classeur. Ça devient comme un non-sens de l'utiliser. Donc, ça défait l'objectif d'un cluster Kubernetes, essentiellement.
Ce qui est important aussi quand on utilise IDS, c'est d'être sûr de bien configurer les filtres. Parce que dans une architecture typique recommandée, je crois que dans un des podcasts précédents, tu avais jasé de Cloud Armor avec Yann. Si je ne me trompe pas, oui, il était bon. Vous aviez du fun?
Ouais, on l'a bien aimé. On l'a bien aimé.
C'est parfait. Ben, Cloud Armor, il faut le voir. C'est quoi la différence, en fait, la question? C'est quoi la différence entre Cloud Armor et IDS?
Ben, Cloud Armor est un service moins relié directement aux infra. Puis le Cloud IDS est plus relié avec des notions de plus d'infra, mais
pas loin,
de so-so, là.
OK. Cloud Armor, c'est un WAF, essentiellement. Ça fait des applications web. Ça protège des applications web. Donc, si tu exposes des workloads à l'Internet, qui sont des applications web, HTTP, HTTPS, Cloud Armor, c'est ton meilleur outil pour te protéger de l'externe. Maintenant, si ce n'est pas une application web, ou que c'est une application où est-ce que le trafic est sortant ou du trafic latéral, comment tu vas faire ça? Cloud Armor ne réglera pas ça. Fait que ce qui est important de comprendre, c'est la différence entre Cloud Armor et IDS. C'est vraiment une question de fondamentalement, on ne les utilise pas pour les mêmes raisons.
Oui, ben effectivement, moi c'est naturel là, parce que c'est justement Cloud Armor, c'est un web, fait que c'est purement web, là, puis c'est moins infra, c'est plus applicatif, puis versus Cloud Armor, pas Cloud Armor, Cloud DS, c'était beaucoup plus basé sur mes notions, mes anciennes notions de réseau et de choses de base, choses très anciennes, mais qui sont encore utiles, mais pas de la même façon. Puis c'est ça aussi, ça l'amène, c'est que ça vient moderniser ces vieux concepts-là, mais en n'injectant pas les biais négatifs qu'on pouvait avoir avec de l'infra physique, justement, le c'est scalable. Puis ben, tu peux rattacher juste avec quasiment juste en cochant une case, tu rattaches ton trafic. Tu le fais voir par ta capacité d'analyse.
Non, c'est ça. Si on essaie de le visualiser, c'est que le trafic qui arrive d'Internet vers une application web va être intercepté, filtré par CloudArmor. Mais ça, c'est du HTTP, HTTPS. Maintenant, une fois qu'il rentre, il va atteindre son workload de destination. Ça se pourrait que le workload de destination, c'est pas la finalité. Souvent, on rentre dans le front-end, puis par la suite, on va appeler plusieurs services. S'il y a une vulnérabilité qui est exploitée quelque part, bon, IDS va être capable de l'avoir sur tout ce qui a passé la couche du WAF. Si jamais tu commences à avoir des patterns de communication bizarres entre pods ou entre workloads, donc du trafic latéral, IDS va être capable de le capturer. Armor ne serait pas capable. Si jamais tu commences à avoir des indicateurs d'exfiltration de données, IDS va le capturer aussi. Fait que ce qui est important, c'est que quand on commence à utiliser Cloud IDS, il faut vraiment bien setter les paramètres. Parce que si on essaie de capturer tout le trafic qui rentre d'Internet, alors qu'on a déjà Cloud Armor, c'est comme un peu la ceinture puis les bretelles.
Je l'ai déjà vu.
Oui, ben c'est correct. Là. Je veux dire, moi, ça me dérange pas, mais ça crée énormément de bruit.
Mais ça n'ajoute pas de valeur.
Non, il n'y a pas de valeur là. La grosse valeur d'IDS, c'est vraiment mouvement latéraux, exfiltration de données. Là, on est capable d'être couvert. Puis, il y en a certains qui vont me dire, oui, mais c'est un IDS, ça ne bloque pas.
Oui, mais tu as même dit que tu le branchais sur des éléments suffisamment connexes qui vont amener à faire les actions qui sont posées. Puis en info nuagique, généralement, on ne bloque pas par du réseau conventionnel, mais par des changements.
Ah, j'aime ça.
Par de l'infrastructure as a code, par exemple. C'est comme ça qu'on arrive à faire les bonnes opérations.
Tu sais, quand tu y penses, c'est que si IDS détecte qu'il y a un workload qui est présentement qu'il y a une exploitation, qu'il y a quelqu'un qui essaye d'exploiter une vulnérabilité, ben, il n'y a rien qui t'empêche, vu que tu as maintenant le log, de déclencher via ton SOAR ou via n'importe quelle autre fonction de mettre ce workload-là en quarantaine ou d'appliquer des patchs ou de faire essentiellement tout ce que tu veux. Fait que ta prévention, tu l'as indirectement. Tu es capable de la faire indirectement.
Oui, mais c'est ça, on n'a plus besoin de bloquer au sens réseau, on a juste besoin d'agir sur l'infrastructure avec les capacités qu'on a. Avant, on ne peut pas fermer la machine. Là, on peut littéralement fermer la machine quand on la sent détectée, on la sent menacée ou menaçante, tout dépendant dans quel état on est rendu. On est capable d'agir tout de suite, là, justement, comme tu dis, mais on peut changer du segment réseau dans un claquement de doigts.
Ouais.
Fait que c'est beaucoup plus facile d'agir et c'est justement la réflexion doit évoluer, puis c'est ça, je l'ai pas vu beaucoup encore.
Puis, lorsqu'on parle d'orchestration comme ça, le gros bénéfice, c'est vu que ton log est en format JSON Palo Alto, ben généralement, tous les outils d'orchestration, d'automatisation, toutes les sims, c'est facile, les playbooks existent tous déjà pour Palo Alto vu que c'est un produit mainstream. Fait qu'en termes d'intégration, pas mal facile à faire.
C'est vraiment chouette tout ça. Je pense qu'on a fait quand même un bon tour d'horizon. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu n'as pas... Que tu aimerais aborder?
On a fait le tour pour IDS. Stay tuned pour des annonces futures. Il y a de quoi d'intéressant qui s'en vient à très court terme.
Très hâte d'avoir ça.
C'est bon.
Merci.
Salut.